L'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Alors que les lieux culturels n'ont pas pu rouvrir après la date de revoyure fixée hier, la ministre Roselyne Bachelot n'a pas souhaité ce matin fixer de nouvelles échéances. En revanche, elle évoque des études scientifiques encourageantes menées aujourd'hui par les professionnels du secteur des concerts dans l'optique d'une éventuelle rouverture.
Et tandis que la lenteur des campagnes de vaccination en Europe fait l'objet de critiques toujours plus nombreuses, Bruxelles annonce ce matin avoir doublé sa commande de vaccins portée à 600 millions de doses.
Comment venir à bout du virus hautement pathogène de la grippe aviaire? Pour contenir l'épidémie, le gouvernement mise sur un dépeuplement massif grâce à l'extension des abattages.
Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Jarnac pour se recueillir sur la tombe de François Mitterrand.
Oui, un hommage à l'ancien chef de l'État mort il y a 25 ans, jour pour jour, mais certainement pas un clin d'œil aux électeurs de gauche. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Paul Quilès, ancien ministre du Logement, des Postes et Télécommunications, de l'Intérieur et de la Défense. Enfin, à l'étranger, nous irons notamment aux États-Unis où Donald Trump, accusé d'avoir incité ses partisans à envahir le Capitole, se retrouve de plus en plus isolé, y compris dans son propre camp. De retour hier pour son premier bulletin épidémiologique de l'année sur fond tout d'abord de dégradation sanitaire avec notamment deux foyers à risque du nouveau variant britannique du virus détecté en Bretagne et en Île-de-France, mais plus encore sur fond d'attaques toujours plus nombreuses de l'opposition sur la stratégie déployée par son gouvernement. Jean Castex n'aura non seulement pas eu l'avantage de pouvoir vanter l'espoir suscité par le vaccin, le chef de l'État l'avait déjà fait avant lui lors de ses vœux pour la nouvelle année, mais il aura même eu dû endosser le mauvais rôle, au fond, de devoir annoncer le maintien de toutes les restrictions sanitaires. Aujourd'hui, une décision doit être prise sur l'extension à 10 nouveaux départements du couvre-feu dès 18h, déjà en vigueur dans 15 départements. Et puis tous les lieux culturels, mais aussi les équipements sportifs ou de loisirs, sans oublier les bars et restaurants, ne connaîtront aucun assouplissement dans les prochaines semaines. Seule nouveauté, même si en l'occurrence le Premier ministre se défend de vouloir rectifier le tir, le calendrier de la campagne de vaccination va s'accélérer, notamment en déployant de nouveaux centres dédiés en ville et par ailleurs s'élargir en l'ouvrant aux plus de 75 ans dès le 18 janvier. Ou comment recalibrer une campagne de masse dans un pays qui reste profondément sceptique face au vaccin. Quoi qu'il en soit, et s'agissant des lieux culturels pour ne citer que, le gouvernement n'a donc pas souhaité se risquer à avancer la moindre date possible de rouverture. Ce matin, Roselyne Bachelot a déclaré mettre, je cite, ses tripes sur la table pour protéger le monde de la culture. Est-ce que les scientifiques qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au point des vaccins efficaces n'ont pas réussi pour l'instant à faire renaître l'espoir, du moins jusqu'à aujourd'hui, de voir rouvrir rapidement les lieux culturels? En revanche, d'autres expériences alternatives sont menées qui, elles, pourraient porter leurs fruits plus rapidement. C'est le cas notamment Anne Lamotte avec un concert test organisé tout récemment en Espagne.
L'expérimentation espagnole est simple. Au départ, près d'un millier de personnes. On divise le groupe en deux. La première moitié ne va pas au concert. La deuxième, 463 personnes exactement, y assistent après un test PCR négatif dans une salle qui peut accueillir 900 personnes. Masque FFP2 obligatoire, ventilation optimisée, température surveillée, mais pas de distanciation. On peut même danser et enlever son masque pour boire. Résultat, 8 jours après, aucun cas de Covid dans la moitié qui s'est rendue au concert, 2 dans l'autre. Une étude très encourageante pour le PRODIS, le syndicat national du spectacle musical, qui prépare le même genre de test dans une grande salle à Paris au plus tard début avril. Car pour Malika Seguino, la directrice générale du PRODIS, l'année 2021 doit être celle de la reprise, notamment pour les festivals cet été.
Nous estimons que désormais, nous devons avancer sur des types d'expérimentation à Paris, mais également ailleurs en France, dans des milieux fermés, dans des salles, mais également ensuite en mode plein air pour préparer la saison festivalière. En fait, ça va conforter ce qui se dit et ce qui a été dit par le gouvernement depuis des mois. Nous ne sommes pas un lieu de cluster. Il faut des festivals d'été. S'il n'y a pas de festival d'été, il n'y a pas de tournée à l'automne. Et l'année 21 sera une année zéro. 2 années zéro, ce n'est pas possible.
Malika Seguino, qui aura de nouveau l'occasion d'en parler avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, aujourd'hui. Elle sera dans son bureau à 17h30.
Alors, je le disais en ouverture de ce journal, de premier cas du variant anglais du coronavirus. A priori, 6 fois plus contagieux chez les adultes, mais aussi les enfants ont été détectés en Bretagne ainsi qu'en région parisienne. De quoi inquiéter les enseignants notamment, d'autant que pour l'instant, le ministère de l'Éducation n'envisage pas de renforcer le protocole sanitaire et indique seulement rester vigilant. Un manque d'anticipation que dénonce Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP-FSU. Elle répond à Hakim Kasmi.
Il faut garder les écoles ouvertes, mais pas à n'importe quel prix. Il faut pouvoir assurer la sécurité de tous, et des enfants comme des personnels dans les écoles, et aussi des familles, parce que s'il y a plus de contamination dans les écoles, beaucoup d'enfants sont asymptomatiques, il y aura des contaminations dans les familles. Donc ça veut dire qu'il faut éviter au maximum les brassages, et il faut éviter au maximum les temps tels que la cantine, où les enfants sont entassés à la cantine et il n'y a pas de distanciation physique. Et puis il faut surtout pouvoir tester rapidement. On nous a promis une augmentation de ces tests, mais dans les collèges et les lycées, et pour le moment, les écoles maternelles et élémentaires ne sont pas concernées par ces tests. Et nous demandons aussi à ce qu'il y ait des études scientifiques de mener auprès des élèves pour vérifier que le virus circule ou ne circule pas, mais qu'on établisse vraiment les lieux où les enfants peuvent transmettre le virus de façon asymptomatique ou de façon symptomatique d'ailleurs.
Voilà, Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP-FSU. Elle répondait à Hakim Kasmi. Le protocole sanitaire dans les entreprises a lui été légèrement assoupli. Depuis ce matin, les salariés en télétravail à 100% peuvent, s'ils le souhaitent, revenir sur site une journée dans la semaine en accord avec leur employeur. Une demande qui semble s'exprimer de plus en plus chez les salariés concernés. Sébastien Crozier est le président du syndicat CFE-CGC d'Orange, où l'ensemble des employés, à l'exception de ceux dans les boutiques, étaient prévus en télétravail complet au moins jusqu'à la fin du mois. Une situation nettement moins bien acceptée que lors du premier confinement. Il explique pourquoi, Catherine Pétillon.
L'acceptation du télétravail forcé était beaucoup plus forte. Là, on a en fait des gens qui se sentent beaucoup plus stressés, qui demandent à retrouver le chemin du bureau, parce qu'ils trouvent ça oppressant d'être en télétravail. Une inquiétude commence à surgir sur les risques psychosociaux, c'est-à-dire de retrouver des gens qui soient en carafe psychologiquement. Et donc, il y a une réflexion qui est comment on fait pour soulager cette pression et cette oppression de l'enfermement. Qu'en fait, on ait une liberté pour que les gens puissent revenir une, deux journées par semaine au bureau. Après, derrière, ça a des impacts logistiques parce qu'il faut réouvrir des immeubles avec de la circulation et donc toute une machinerie de nettoyage, etc. Donc évidemment, c'est pas si simple que ça à faire. Mais a priori, c'est une soupape de sécurité psychologique.
Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC d'Orange, joue en téléphone par Catherine Pétillon. Alors que les foyers de grippe aviaire se multiplient depuis le début du mois de décembre dans les élevages de canards du sud-ouest, les éleveurs réclament des mesures conséquentes pour stopper la progression de ce virus, dont on rappelle qu'il n'est pas transmissible à l'homme. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, est attendu cet après-midi dans les Landes, mais dès hier, le ministère a donc annoncé de nouvelles mesures, en l'occurrence l'extension des abattages préventifs, c'est ainsi que des centaines de milliers de canards devraient encore être tués. Timur Öztürk, bonjour.
Bonjour.
Le nombre d'élevages contaminés ne cesse donc aujourd'hui de flamber, et face à l'extension des abattages, eh bien Timur, le sentiment qui domine est celui de l'impuissance face à une situation devenue hors de contrôle.
Oui, parce qu'en une semaine, le nombre d'élevages atteint a plus que doublé, de 61 foyers de contamination au 1er janvier, nous sommes passés à 124 selon le ministère de l'Agriculture. L'influenza aviaire, dite grippe aviaire, touche presque exclusivement le département des Landes, mais quelques cas se sont déclarés dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Alors, la filière est très inquiète. Marie-Pierre P, de l'interprofession du foie gras, constatait hier que le virus est plus fort que nous, quand Hervé Dupuy, président de la section palmipède de la FNSEA des Landes, réclamait un réel vide sanitaire, l'abattage de tous les oiseaux d'élevage dans les secteurs concernés. Pour éradiquer la maladie, il n'y a pas d'autre solution, juge-t-il. Alors, jusqu'ici, oies et canards devaient être abattus dans un périmètre de 3 km autour d'un foyer de contamination. Désormais, sur décision décision du ministère de l'Agriculture, ce sera 5 km. Et pour les autres volailles élevées en plein air aussi, l'objectif, c'est de faire un dépeuplement massif, dit ce matin le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Mais les professionnels regrettent un retard pris dans ces abattages préventifs, faute de moyens pendant la période des fêtes. Depuis Noël, 350 000 animaux d'élevage ont été tués, écrivait hier le ministère de l'Agriculture. Ce matin, Julien de Normandie avançait même le chiffre de 400 000 chez nos confrères de France Bleu. Mais des centaines de milliers d'autres attendent déjà leur tour, un chiffre qui gonfle avec chaque foyer découvert. Le ministère promet la réquisition d'abattoirs supplémentaires. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à l'ampleur du vide sanitaire de l'hiver 2016-2017, quand 4 500 000 canards avaient été abattus.
Merci Timur Özturk. Fallait-il libérer Aboubacar Bachir ce matin? Le chef religieux, considéré comme une figure centrale de l'organisation islamiste Jemaa Islamiyah liée à Al-Qaïda, est responsable des attentats de Bali au cours desquels plus de 200 personnes avaient trouvé la mort. C'était en octobre 2002, a quitté sa cellule indonésienne. Une libération anticipée, les avocats de cet homme âgé aujourd'hui de 82 ans ayant fait valoir le risque pour leur client de contracter le coronavirus en prison. Même si Aboubacar Bachir a toujours nié toute implication dans ces attaques sanguinaires, sa condamnation en 2004 avait d'ailleurs été annulée en appel, faute de preuves. Il avait toutefois écopé en 2011 de 15 années de réclusion pour avoir aidé à financer des camps d'entraînement islamistes. Quoi qu'il en soit, et ce matin donc, depuis que l'homme qui n'a jamais renoncé à son idéologie extrémiste a rejoint son domicile, après s'être vu accorder une réduction de peine de près de 6 années, l'annonce profondément traumatisante de cette libération a aussitôt suscité la colère des familles des victimes. Au lendemain de cette journée de chaos qui a ébranlé l'Amérique, Donald Trump, lâché par les siens et accusé par Joe Biden d'avoir miné la démocratie, a lancé hier un rare appel à la réconciliation, condamnant une attaque, je cite, odieuse sur le Capitole. Un message manifestement enregistré sous la pression des républicains. Quoi qu'il en soit, et malgré ce changement de ton radical, le président sortant apparaît surtout de plus en plus isolé à la Maison-Blanche. Plusieurs de ses fidèles, dont la ministre de l'Éducation, l'une de ses plus ferventes alliées au sein du gouvernement, a choisi de démissionner, de même que la secrétaire d'État aux transports et épouse du chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Ou quant au sein du Parti républicain, comme du gouvernement, voire au sein de l'équipe rapprochée de Donald Trump, eh bien, le malaise, Franck Madvon, est désormais palpable.
Certains proches de Donald Trump commencent à se confier. Mick Mulvaney, par exemple, son ancien chef de cabinet, estime que le président a beaucoup changé depuis 8 mois. Ce n'est plus le même. Mulvaney fait partie de ceux qui ont démissionné hier. Il était encore émissaire pour l'Irlande. Ce qui s'est passé mercredi, dit-il, est inacceptable. Des conseillers de la Maison-Blanche ont jeté l'éponge, mais aussi deux ministres. D'autres pourraient suivre. Les élus les plus fidèles lâchent Trump, comme le sénateur républicain Lindsey Graham. Ne comptez plus sur moi, trop c'est trop. C'est peut-être pour répondre à ces critiques que Donald Trump a publié une nouvelle vidéo hier soir parlant enfin de réconciliation, mais pour beaucoup, au sein même de son camp, le mal est fait. Le président est retranché à la Maison-Blanche avec ses proches, ses derniers soutiens, dans l'espoir que ce changement de ton tardif éteigne les appels à sa destitution. Dans sa vidéo d'hier, Donald Trump a tout de même assuré à ses militants que le voyage ne faisait que commencer.
Alors si le chaos provoqué par des Trumpistes en colère à l'assaut du Capitole risque de marquer durablement les esprits, ces incidents se seront aussi et surtout soldés par la mort de 5 personnes selon un dernier bilan, 4 protestataires dont une femme touchée par une balle tirée par la police et un policier lequel a succombé hier soir à ses blessures. Quant au chef de la police du Capitole, très critiqué pour son incroyable impréparation, il a présenté sa démission. Toujours aux États-Unis, le pays a enregistré hier un nouveau record de décès du Covid-19 en atteignant quasiment la barre des 4000 morts en seulement 24 heures. De son côté, le Brésil a lui franchi le seuil des 200 000 morts depuis le début de la pandémie. Or, avec une campagne de vaccination qui n'a pas encore débuté, non seulement Les espoirs de voir la situation s'améliorer ont été douchés, mais les spécialistes s'attendent au pire en ce début d'année. Quant à l'OMS, elle appelle l'Europe à se mobiliser davantage face à la situation alarmante créée par le nouveau variant plus contagieux du coronavirus. Et c'est ainsi qu'on a appris ce matin que les réservations européennes de vaccins de BioNTech et Pfizer vont atteindre 600 millions de doses potentielles, ou quand devant les polémiques qui enflent dans un certain nombre de pays européens, mais aussi les accusations dirigées vers l'UE, eh bien, la Commission européenne a en quelque sorte pris le taureau par les cornes et négocié avec l'association de laboratoires germano-américains une rallonge des contrats déjà signés. Précision de Pierre Benazet.
La Commission européenne avait déjà activé fin décembre la clause permettant à l'UE de commander 100 millions de doses de vaccins, en plus des 200 millions déjà précommandés dans le contrat signé avec Pfizer et BioNTech. Désormais, ce sont 300 millions de doses supplémentaires qui seront à disposition des Européens. Les négociations ont été rapides, souligne la Commission, puisque c'est une extension du contrat existant. La Commission européenne a été cette semaine largement critiquée, en Hongrie et en Allemagne surtout, pour avoir initialement limité les quantités de doses pré-réservées aux différents laboratoires. Sa présidente, Ursula von der Leyen, semble désireuse de mettre un terme aux polémiques et de tourner la page.
Nous avons beaucoup de projets pour l'année 2021, en particulier pour la reconstruction économique. Mais tout cela présuppose que nous allons réussir à vaincre la pandémie. Ce qui veut dire en premier lieu, nous devons vacciner un maximum d'Européennes et d'Européens le plus rapidement possible.
Avec un début des livraisons prévu début mai pour cette nouvelle pré-réservation, avec un vaccin dont les défis logistiques sont déjà connus, la Commission européenne souligne que la balle est désormais dans le camp des 27 gouvernements, puisqu'ils sont souverains dans leur choix d'achat des vaccins et de stratégie de vaccination.
Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est de ne plus vivre, disait-il, ce lundi 8 janvier 1996 à l'aube. 8 mois après avoir quitté l'Élysée, François Mitterrand s'éteignait rongé par un cancer. 25 ans plus tard, jour pour jour, Emmanuel Macron s'est donc lui rendu ce matin à Jarnac pour célébrer l'anniversaire de la disparition du premier président de gauche de la Ve République. Et avant d'évoquer la mémoire donc de François Mitterrand avec notre invité, Paul Quillès, tour à tour ministre entre 1985 et 93 de la Défense, des postes et télécommunications, du logement, des transports et de l'intérieur. Je vous propose d'écouter Vincent Martini, il est professeur de sciences politiques à l'école polytechnique. Et Sophie Delpont lui a demandé ce que représente la figure de François Mitterrand pour la gauche. On l'écoute.
Dans l'imaginaire de la gauche et de ses sympathisants, il est l'homme qui a régné le plus longtemps au nom des idéaux de la gauche et qui a porté la gauche au pouvoir, non seulement en 80, mais aussi évidemment en 1988. Donc c'est un homme de victoire qui est associé à un grand espoir. Il ne faut pas oublier que toute une jeunesse et tout un électorat qui vraiment s'est enthousiasmé pour François Mitterrand, qui a aimé François Mitterrand, la fameuse formule « Génération Mitterrand », qui est celle des enfants qui ont grandi dans les années 80, ont cette espèce de mémoire de ce tonton, cet homme qui a marqué un peu leur histoire. Et puis c'est aussi évidemment l'homme, si ce n'est des trahisons, en tout cas l'homme des renoncements de la gauche. Dans la rupture avec le capitalisme, qui était un désespoir d'un certain nombre de militants de gauche en 1980, qui s'était incarné dans les nationalisations, dont on sait qu'au bout de 2 ans, finalement, le programme très ambitieux de rupture avec le capitalisme a été abandonné. On est rentré dans un libéralisme plus classique. Deuxièmement, c'est l'échec de cette idée d'une rupture avec les institutions de la Cinquième. François Mitterrand, on le sait, avait écrit un pamphlet contre la Cinquième qui s'appelait « Le coup d'État permanent ». Et puis enfin, il y avait un mythe révolutionnaire à gauche. Ce mythe révolutionnaire, il s'est brisé pour les socialistes sur le fait de devenir un parti de gouvernement. Voilà, François Mitterrand, c'est aussi l'homme qui a normalisé le parti socialiste, qui a normalisé la gauche. Et donc ça va avec un certain nombre de renoncements et certains considèrent encore aujourd'hui que François Mitterrand est aussi responsable de ces renoncements-là.
Voilà, Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'école polytechnique, auteur d'une thèse sur François Mitterrand, joint au téléphone par Sophie Delpont. Et pour continuer d'évoquer la mémoire de François Mitterrand, invité, je le disais aujourd'hui, de la rédaction, Paul Quillès. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur Quillès, on vient d'entendre à quel point, au fond, François Mitterrand aura incarné tout à la fois l'avènement, mais aussi le renoncement à un certain nombre d'idéaux à gauche. Et lorsqu'on pense à son seul et unique successeur, à la fonction suprême au sein du Parti Socialiste, François Hollande, eh bien, on se dit que lui aussi aura eu à assumer un certain nombre de contradictions similaires. Est-ce qu'à l'heure où l'on évoque donc l'héritage de François Mitterrand, ça n'est pas là le piège auquel s'est toujours retrouvé confronté le Parti socialiste.
Je trouve le mot renoncement un peu violent, mais bon, ça permet de mieux discuter, d'employer des mots forts. Disons que François Mitterrand a vécu, et nous avec lui, dans une période très différente du monde d'aujourd'hui. N'empêche que je vais répondre à la question, mais il ne faut pas oublier le contexte international, le contexte national, toute une série d'événements qui ont touché la France et qui la touchent encore aujourd'hui, qui n'étaient pas là à cette époque. Alors, s'agit-il de renoncement ? S'agit-il d'adaptation à une situation qui était celle de la crise qui a touché l'Europe, et la France en particulier, en 82-83, qui a amené, et je me souviens de l'expression, à expliquer devant l'étonnement d'un certain nombre de nos sympathisants, dire qu'il s'agissait d'une parenthèse. On nous disait, c'est une parenthèse, ça va revenir. Et au bout de quelques temps, on nous a dit, mais non, c'était une erreur, il ne fallait pas parler de parenthèse, c'est une adaptation au monde tel qu'il est. Et c'est vrai que toute une série de réformes qui ont été engagées, qui ne doivent pas être oubliées, un certain nombre de ces réformes ont été en quelque sorte abîmées par la crise et par la volonté de François Mitterrand en tant que président de la République, leader des socialistes, de dire non pas on renonce, non pas on revient en arrière, non pas on s'arc-boute sur nos principes quitte à échouer, mais à essayer de trouver une sorte de fédération, de rassemblement. Et ça, ça a été, je crois, ça peut être considéré comme un point positif du mot bon, que vous utilisez, de l'héritage, que pensent les héritiers, enfin, j'aime pas beaucoup ces formules, mais un rassemblement entre une fédération, en quelque sorte, entre les gens attachés aux valeurs de rupture et les gens attachés aux valeurs de protection. Et c'est pas un hasard si le slogan, un des slogans de François Mitterrand, que je connaissais bien puisque j'étais son directeur de campagne, c'était « la force tranquille ». On entendait dans ce slogan à la fois force et tranquille. C'est ça qui a permis de rassembler les Français. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de ceux qui étaient en particulier attachés aux valeurs de rupture ont été choqués, étonnés par certains retours en arrière. Alors, je me permets de rappeler quand même que dans les mesures prises par Pierre Mauroy, le premier chef de gouvernement du premier septennat de François Mitterrand, il y avait toute une série de propositions que je connaissais bien. C'était le programme de la campagne, c'était les 110 propositions. Alors, je ne vais pas vous les réciter, les 110 bien entendu, mais je rappelle l'abolition de la peine de mort, je rappelle la cinquième semaine de congés payés, l'impôt sur la fortune, la retraite à 60 ans, les 39 heures, le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, la réforme des médias qui en avait bien besoin à l'époque, la décentralisation. Je pourrais encore allonger la liste, mais la plupart de ces mesures, à part, vous avez raison, les nationalisations, mais pour des raisons économiques extrêmement sérieuses, qui ont été d'ailleurs reprises et accentuées par la droite quand elle est venue au pouvoir quelques années plus tard, toutes ces mesures sont demeurées et restent dans la trace que François Mitterrand laissera dans l'histoire.
C'est quoi précisément, Paul Quillès, ce que nous lègue aujourd'hui François Mitterrand? C'est quoi son héritage? Qu'est-ce qu'il nous a légué de plus important, selon vous? Et est-ce qu'il y a un héritier à François Mitterrand?
Non, bien sûr que non. Je dis bien sûr que non, parce que on peut pas dire que les hommes, les femmes politiques laissent des héritiers comme ça 25 ans plus tard, ou qu'ils le désignent quand ils cherchent à le désigner. En général, ça se passe pas bien. Mais un héritier, en quelque sorte, quelqu'un qui prolonge les enseignements de François Mitterrand, il y en aura certainement un. Il y en aura certainement un, et j'en suis convaincu. C'est pas une croyance, c'est simplement instruit par l'exemple. L'exemple, par exemple, des années 70, avant l'élection de 81, où personne ne donnait et ne pariait un centime sur François Mitterrand, et sur la gauche, et sur le Parti Socialiste. On était quand même dans une époque où il y avait l'URSS, le mur de Berlin existait, et où le fait d'avoir passé une alliance avec le Parti Communiste semblait complètement incongrue et porteuse d'échecs. Vous n'y arriverez jamais, on disait. On y est arrivé.
C'est un monde qui paraît loin aujourd'hui. Il y avait, ça a suscité l'unification de la gauche et l'avènement au pouvoir de François Mitterrand a suscité un espoir véritablement. Il y avait un espoir dans la politique. On a l'impression qu'il a disparu aujourd'hui. Est-ce que ce monde-là appartient définitivement au passé?
L'espoir, il faut lutter, travailler à ce que cet espoir revienne. Il ne peut pas revenir simplement en portant tous ses espoirs sur un homme ou sur une femme. Il ne peut revenir que par l'application. Et là, dans ce sens-là, je crois que Mitterrand peut être utile. L'histoire de Mitterrand peut être utile en appliquant une méthode. Et cette méthode de Mitterrand, elle était faite de volonté, d'affichage des objectifs. Et quand on dit une méthode, c'est des objectifs clairement définis, clairement affichés. C'est une stratégie. C'est le souci du rassemblement, pas simplement dans les mots comme je l'entends aujourd'hui, mais par des actes concrets, et que la plupart des leaders fassent un peu abstraction de leurs égos qui sont un peu énormes aujourd'hui, qu'ils l'étaient pour certains déjà à l'époque, hein. Mais aujourd'hui, c'est démultiplié à l'infini par les réseaux sociaux, par la façon dont on aborde la politique, le discours politique et le jugement sur les politiques. Moi, je me souviens que quand Emmanuel Macron est devenu président de la République, c'était autour d'une campagne « La politique, c'est fini », les partis politiques, c'est inutile, la droite, la gauche, ça n'existe plus. Bon, on se retrouve quand même 3 ans, presque 4 ans plus tard, tout ça n'a plus vraiment de sens. La politique, ça existe toujours. La droite, la gauche, même si elles sont très affaiblies, ça existe. Et tout cela reviendra. Et je pense, puisque aujourd'hui on célèbre donc un anniversaire qui concerne François Mitterrand, en appliquant certaines méthodes de fonctionnement politique.
Et on terminera par ces mots, retenant qu'il faut travailler à ce que l'espoir revienne. Merci Paul Quilès d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à Johan Vincent pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, à l'exception du sud-ouest où le soleil pourra faire quelques timides apparitions. La grisaille sera omniprésente. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.